Ben voilà, un autre cas de violence chez les ados. Puis là, c'est de la violence extrême parce que ça s'est fini par la mort d'un jeune de 17 ans. Et là, ce qu'on sait, on l'a appris dans les dernières heures, là, c'est deux adolescents, un garçon et une fille, donc, qui ont été arrêtés, qui vont comparaître en chambre de la jeunesse à Montréal pour répondre à des accusations de vol qualifié et de meurtre non prémédité. C'est un jeune Québécois d'origine marocaine, donc qui aurait été retrouvé mort dans un boisé, là, ça s'appelle le domaine Saint-Paul. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on commence quand même à avoir un peu le portrait de, comment dire, de l'acte. Comment l'acte s'est déroulé? Comment le crime a été commis? Jean-François Brochu, ex-sergent à la Sûreté du Québec, expert des affaires policières. Bonjour Jean-François.
Bonjour Bernard.
D'abord, donnez-nous les informations que vous avez pu recueillir à travers les contacts que vous avez encore dans la police, là.
Bien, on n'en a pas beaucoup, Bernard, parce qu'il s'agit de trois mineurs. Donc, les policiers sont très prudents sur les informations qui vont circuler. Mais disons là à tout événement que pour l'information de la population, c'est un vol qualifié. Donc, un vol avec violence. Okay? Un vol qualifié, c'est un vol au cours duquel on fait des voies de fer. Alors, ça peut être avec les mains, ça peut être avec les menaces. Dans ce cas-ci, il semble qu'un couteau a été utilisé, un objet piquant, et que le jeune a été justement poignardé au corps et au cours de ce vol qualifié-là. Donc, et l'accusation de meurtre deuxième degré vient du fait que, donc, l'objectif au départ de cette affaire-là n'était pas justement de le tuer, de le voler. Et quelque chose s'est passé. Et là, on est très prudent sur les circonstances, là. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il s'est défendu? D'ailleurs, c'est au cours d'une bagarre que l'agresseur l'aurait poignardé. Là, ça, ces renseignements-là sont pour l'instant confidentiels.
Ce qui est un peu étonnant, Jean-François, puis je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé parce que vous avez été au crime contre la personne, vous, c'est que les enquêteurs, au départ, considèrent que la mort est accidentelle, puis vont même se tourner vers un coroner, puis c'est le coroner qui va regarder les circonstances on pense pas que c'est un crime à ce moment-là, les circonstances de ce qu'on croit être un accident, et là, c'est le coroner qui dit, ben non, c'est pas un accident, ça, là. Ouais. Il y a eu tentative de meurtre.
Il y a eu homicide, hein? Il y a eu homicide. Ben, dans ce cas-là, c'est effectivement, ça a sorti au début d'une façon un peu, je dirais, troublante dans le sens où effectivement, là, on a parlé d'une mort suspecte, mais d'un possible accident, tout ça. Est-ce que ces hypothèses-là ont été émises par les policiers ou par des témoins ou ce sont des conclusions que certaines personnes auraient sorties de conversations qu'ils ont eues? Bernard, c'est difficile de savoir. Mais effectivement, les premiers policiers sur les lieux sont très importants dans une affaire comme celle-là. Quelle est l'analyse qu'ils ont faite de la situation? Est-ce que cette analyse-là a été faite dans les règles de l'art, parce qu'effectivement, le dossier n'a pas, semble-t-il, été transmis immédiatement au crime majeur du SPVM. Est-ce qu'à quelque part dans la chaîne là, d'observation de la scène de crime, quelqu'un a manqué quelque chose, a échappé quelque chose, c'est pas impossible. Puis il y a une autre affaire, Bernard, qui me surprend. Moi, c'est que normalement, dans une affaire comme celle-là, les policiers vont éviter de parler, par exemple, de dire qu'une personne a été poignardée. On va plutôt dire qu'elle a été victime d'un objet coupant ou bon. Parce que ce sont des éléments normalement qu'on va garder pour c'est pas de la mauvaise foi, là, c'est pour arriver lorsqu'on fait un interrogatoire, on garde, autrement dit, le plus d'éléments possibles concernant les détails du meurtre, pour être en mesure de valider la déclaration qu'un témoin va nous donner. Par exemple, je te donne un exemple, Bernard, l'assassin confie son crime à quelqu'un. Ben, les détails qu'il va avoir donnés à cette personne-là vont faire qu'effectivement, c'est bien lui qui a commis le crime parce qu'il y a des détails que seulement l'assassin connaît. Alors, c'est pour ça qu'il y a des choses que les policiers vont toujours garder confidentielles dans une affaire comme celle-là. C'est très important.
T'es pas un peu... regardons un petit peu... éloignons-nous un petit peu des arbres. Regardons un petit peu la forêt, Jean-François. T'es pas un peu découragé, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure en intro, consterné, peut-être que c'est plus fort encore, du niveau de violence qu'on retrouve chez les adolescents.
Bernard, un vieil ami à moi, qui est un civil, là, qui est un individu qui a fait les 400 coups, si on veut, appelons ça comme ça, dans les bars et tout ça, qui a fait une jeunesse assez occupée, disons. Il me disait, vous savez, il dit, tu sais, Jean-François, dans mon temps, là, on réglait ça à coup de poing, en arrière du bar, ça durait 5 minutes, il y en a un des deux, aussitôt qu'un des deux avait le dessus, ça s'arrêtait là, on se respectait, puis on rentrait dedans, puis on continuait nos bières, puis on avait réglé notre problème. Aujourd'hui, tu peux plus aller faire ça. Tu peux plus aller menacer quelqu'un ou penser que tu vas régler un problème parce que les gens sortent rapidement, soit une arme à feu, soit un couteau. Alors, effectivement, notre société change.
C'est comme si le niveau de violence acceptable avait monté de plusieurs crans. Là. Acceptable, c'est pas le bon mot, mais la culture de la violence est comme passée à un autre niveau. Ce qu'on réglait à coup de poing, on règle ça avec des armes qui, dans certains cas, vont tuer.
Puis on s'écarte de ce dossier-ci, là, mais allons, Bernard, du côté, par exemple, des gangs de rue qui vont aller jusqu'à se donner comme rite de passage l'assassinat. Hein, tuer un innocent que tu croises sur la rue pour comme rite de passage, comme rite d'acceptation dans l'organisant, dans le groupe. On voit ça, on voit les drive-by shootings, hein, oui, dont la ville de Toronto, Ottawa, présentement, qui a un grave problème avec ce type de criminalité-là entre les gangs, là, les bleus et les rouges. On se tire dessus qui mieux dans la ville d'Ottawa et à Toronto également. Donc, effectivement, on voit une évolution vers... En fait, les villes sont plus sécuritaires qu'elles n'ont jamais été, mais là où il y a des actes violents, ils sont plus violents qu'ils l'étaient.
Ils sont plus spectaculaires, exactement.
Ils sont plus spectaculaires. Mais
j'allais dire, c'est comme si la mort aussi est devenue banale.
Oui, ben écoute, là, on va aller dans la sociologie. Il faudrait parler avec quelqu'un de plus spécialisé que moi, mais est-ce que, par exemple, plusieurs hypothèses qui ont été émises, Bernard, ne serait-ce que les jeux vidéo où des jeunes, à partir de l'âge de 5, 6, 7 ans, passent leur soirée à tuer des gens sur un écran de télévision. Est-ce qu'à l'âge de 16, 17 ans, ça a une répercussion? Je ne sais pas. Je pose la question. Je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, partout, mais il reste une chose, c'est que on voit que l'arme à feu ou le couteau, dans ce cas-ci, c'est une arme piquante, mais on le voit de plus en plus aussi dans les événements violents. Là, les armes mortelles, donc, si on veut, là, sont utilisées des fois là, pour, finalement, assez facilement.
Jean-François Brochu, j'ai fait appel à tes réflexions d'ancien policier, tes réflexions sociologiques d'ancien policier.
Mais c'est correct.
Il y a rien comme le terrain, Jean-François. Il y a rien comme le terrain. Okay. Merci.
Un plaisir. Bonne journée.